Bonjour à tous. Voici donc les suites promises hier et produites par la tempête sous les crânes nationaux en ce glorieux 4 août 2016 et rapportées à partir du blog de Geoffroy de la Gannerie sur Mediapart. Vous êtes prêts à tout? Alors voilà la réponse de notre glorieux premier sinistre lui-même, adressé à Édouard Louis, l'écrivain, et à Geoffroy de la Gannerie, le philosophe, auteur de la lettre ouverte à lui destinée, publiée sur Libération et Mediapart ce glorieux 4 août 2016. Ladite bafouille répond bien sûr aussi à tous les blogueurs dont j'ai essayé d'exprimer la colère, et qu'il aura lu, bien sûr, ainsi qu'à tous ceux que je n'ai pas cités pour cause de doublons. Cramponnez-vous, comme on dit dans ma cité, c'est du lourd. Réponse de Manuel Valls. Nous faisons tout contre le terrorisme. Je ne peux pas laisser sans réponse la lettre ouverte publiée jeudi par Édouard Louis et Geoffroy de la Gannerie dans vos colonnes. Deux intellectuels de gauche, dans un journal de gauche, méritent une réponse claire d'un premier ministre de gauche. D'abord, parce que les auteurs, en niant que tout est fait pour lutter contre le terrorisme, alimentent les peurs des Français, ajoutent à la menace le doute et le scepticisme. Je ne saurais l'accepter. Mais aussi, parce que ce faisant, ils mettent en cause l'action de l'État, l'action de celles et ceux qui, dans nos forces de sécurité et nos armées, dans nos écoles, nos hôpitaux, nos caisses de sécurité sociale, dans nos mairies, sont la réponse collective de la nation face aux défis terroristes. Les auteurs, dans leurs textes, font preuve d'une cécité, sans doute très confortable, qui est selon moi une faute. Cécité par rapport à l'action des pouvoirs publics, cécité aussi quant aux racines profondes de la menace. Je veux le dire très clairement aux Français. Oui, nous faisons tout contre le terrorisme. Les auteurs opposent une action dans le seul domaine de la sécurité, surveillance, répression, et une action pour lutter contre les inégalités sociales, scolaires, une action qui s'appuie aussi sur la connaissance et l'analyse des phénomènes, sur la recherche en sciences humaines et sociales, en psychologie. Mais enfin, notre politique antiterroriste s'appuie bien évidemment sur ces deux piliers, et ce, depuis plus de 4 ans. Tout est mis en œuvre pour traquer les terroristes, empêcher des attentats, adapter notre arsenal législatif à une menace en constante évolution. Nos forces aériennes frappent Daesh en ses bastions, en Irak et en Syrie. Et l'emprise de cette organisation terroriste recule au Levant. Nous agissons aussi sur notre sol avec le renforcement des effectifs et des moyens de nos forces de sécurité, avec 2 lois antiterroristes, 2 lois sur le renseignement, 1 loi sur la procédure pénale, avec la réforme du régime de l'état d'urgence. Mais nous agissons aussi, bien sûr, pour traiter les causes profondes du terrorisme, pour retisser les liens qui se défont dans notre société, pour combler ces fractures dans lesquelles les communautarismes, les extrémismes s'engouffrent. Qui peut sérieusement soutenir que le gouvernement détourne les yeux face aux inégalités sociales, au chômage, à l'exclusion, aux discriminations, à la situation dans nos quartiers ? Alors que nous avons refondé l'école de la République pour que l'égalité des chances ne soit plus une promesse se heurtant au mur des réalités. Alors qu'élu d'Evry, j'ai été l'un des premiers à dénoncer l'existence d'un apartheid social et territorial au sein de notre République. Alors que nous remettons avec détermination des services publics dans nos quartiers populaires, dans les zones périurbaines, dans le monde rural, en outre-mer comme en métropole. Alors que nous faisons tout pour casser les logiques de ségrégation, pour ne rien laisser passer en matière de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie. Pour que chacun se sente pleinement citoyen, partage une même envie de construire l'avenir ensemble. Le Parlement examine en ce moment même deux textes, l'un sur l'égalité et la citoyenneté et l'autre sur l'égalité réelle en Outre-mer, pour que partout la République se traduise en actes. Vérité. Dès 2013, le gouvernement s'est engagé dans une politique de prévention de la radicalisation, totalement novatrice dans notre pays. Après un premier plan adopté en 2014, le deuxième que j'ai présenté avec le ministre de l'Intérieur en mai a bien comme objectif de mobiliser tous les ministères, notamment aux côtés de la justice et de l'Intérieur, ceux de l'éducation nationale, des affaires sociales, des familles ou encore de la ville, de la jeunesse et des sports. Et il faudra aller plus loin encore. Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation pilote l'action de pas moins de 18 départements ministériels. Tous ces ministères ont intégré dans leur politique une dimension préventive face au terrorisme. Non, contrairement à ce qui a été asséné, la réponse gouvernementale ne se limite pas au démantèlement nécessaire des filières terroristes. Malgré tout cela, même si tous les moyens de l'état de droit sont mis en œuvre, le risque zéro n'existe pas. Dire cela, ce n'est pas un discours de fatalité, mais un discours de vérité. Confondre les deux, c'est au fond refuser de voir la réalité pour s'enfermer dans la posture. Une vérité dure, difficile à porter pour un premier ministre, mais une vérité à laquelle les Français ont droit. Oui, nous sommes entrés dans une période longue. La menace terroriste restera forte et nous devons, chacun à notre place, faire face à ces risques nouveaux. Et moi, je crois que le vrai discours de fatalité, c'est celui d'Édouard Louis et de Geoffroy de La Gannerie, en dressant un profil type des terroristes dont les points communs seraient la misère, l'exclusion, la désespérance sociale. Ce qui est au demeurant loin de se vérifier à chaque fois, ils dessinent en creux une forme de déterminisme qui ferait de tous les jeunes des quartiers populaires des terroristes en puissance. C'est ce discours, le même qui était présenté il y a quelques années concernant la délinquance, qui est dangereux, car il crée la suspicion vis-à-vis de l'immigration et de l'islam, car il accroît les divisions, fait le jeu des populismes. Enfin, quand on est intellectuel et que l'on analyse les dynamiques sociales du terrorisme, il est curieux de faire une impasse totale sur la matrice idéologique qui nourrit le djihadisme, en grande partie salafiste. Comment ne pas voir que la sphère djihadiste constitue une entreprise idéologique à visée totalitaire d'un genre nouveau? Schéma classique. Curieux aussi de ne pas s'intéresser à la relance du chantier de construction d'un islam de France, à la fois reconnu et respecté au sein de la nation. Elle répond à la double nécessité de réaffirmer la pleine appartenance des Français de confession musulmane à la vie collective, dans le respect des règles de la laïcité. Et elle vise à prévenir les tentatives de déstabilisation dont certaines associations cultuelles peuvent être victimes. Les auteurs reprochent au gouvernement de ne pas avoir de réflexe de gauche. Mais être de gauche, c'est voir ce qu'il y a, bien sûr, des déterminants liés à la situation économique et sociale, mais aussi que ce n'est qu'une part de la réalité. C'est appréhender les situations dans toute leur complexité. C'est voir que parfois les schémas classiques, les grilles de lecture binaires n'offrent pas toutes les réponses. Alors moi je crois que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de réflexe de gauche, mais d'une politique de gauche, c'est-à-dire une politique globale, profondément républicaine, qui agit sur tous les leviers, une politique qui est aussi exigeante et s'inscrit toujours dans le cadre de l'état de droit, du respect des droits des personnes, du refus de l'arbitraire. Voilà la politique que nous menons et continuerons de mener pour protéger nos concitoyens. Signé Manuel Valls. Ça, c'est de la dialectique. La dialectique valsienne.
Je suis le petit arabe de la chanson française, un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers, un vulgaire petit cancre comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière. J'ai filé voir le docteur car j'en avais gros sur le cœur. Il m'a dit ce n'est rien, pourquoi tu te fais tant de douleur. Je lui ai dit que chez le voisin je sens comme de la rancœur. Il m'a fait super peur, j'ai le syndrome du petit beurre. Le seul beurre que je connais c'est le petit homme si fier. Très riche en idées grasses et très pauvre en la matière. Comment cela se guérit-il? Dites-moi monsieur le savant. Le savon de Marseille n'enchante-t-il pas que les hommes blancs? Il marche parfaitement bien chez les petits maghrébins. Lavez-vous bien les mains, car souvent ça déteint. Je suis le petit arabe de la chanson française. Un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers. Un vulgaire petit cancre, comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière. J'ai pourtant les symptômes d'une bonne intégration, même si j'ai pas fait le choix que l'on m'appelle Napoléon. J'ai la gueule de mes parents et quelles qu'en soient vos opinions, si t'attends autre chose de moi, c'est que t'as bouffé des champignons. Si la France a le choix des armes, je choisis le dictionnaire. Si ma vie est une galère, j'en deviendrai le missionnaire. On a tous pour ambition de pouvoir marcher droit. On s'aperçoit que dans le temps, on avance de travers. Je n'ai trouvé que la chanson pour crier fort mes plus grands rêves. Un peuple qui s'élève pour changer le glaive en trêve, pour que l'on brûle nos faiblesses comme on enflamme ses poubelles et ses phrases qui assassinent ma richesse culturelle. Je suis le petit arabe de la chanson française, un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers. Un vulgaire petit cancre, comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière. Sur l'ambulance, il faudrait pas que l'on s'étonne qu'il règne comme un intifada dans les cités que l'on bétonne. J'ai en mémoire quelques chansons qui hurlent aux armes citoyens, que l'on apprend du bout des lèvres, que l'on dégaine comme un refrain. Je vous assure, je suis français d'ailleurs bien plus que je ne le pense, même si pour l'autre je reste l'arabe qui critique la France. Je suis le petit arabe de la chanson française, un bouffeur de couscous, le prénom à l'envers. Un vulgaire petit cancre, comme l'aurait dit Prévert, qui chante la vie des autres dans la langue de Molière.
Vu qu'il manque d'organisation et qu'il y a urgence, pour l'aider, on lui a fait la liste des commissions. Et qu'est-ce qu'il nous répond? C'est qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais. On parle pas la même langue ou quoi? Et qu'est-ce qu'ils en disent, les copains? Voilà ce qu'ils en disent, les blogueurs de Mediapart, sonné le 5 août 2016. Alors d'abord, bonne aventure, Mars. La réponse de Valls dans Libé aurait pu être signée par Sarkozy ou Le Pen. Au moins, c'est clair. Il se fout de la justice sociale, voire de la justice tout court. Et puis, Abacolon. J'adore ce pseudo. Ça a un petit air intestinal, tout à fait l'idéal. Alors, Valls a lu cette lettre et a répondu dans Libé. Et l'adage se vérifie. Les cons, ça ose tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Valls répond en substance que son gouvernement libéral-socialiste a tout fait pour réduire les inégalités, faire baisser l'échec scolaire, faire disparaître la précarité. Oh, oh, oh. Concrètement, nous retiendrons 40 milliards de prélèvements sur les classes moyennes pour les donner aux patrons sans aucun résultat mesuré. Mieux que Sarkozy et son petit bouclier fiscal. Nous retenons aussi une déstructuration totale des programmes scolaires, une stupidité appelée nappe, maintenant à la charge des municipalités pour faire des ateliers collage, un transfert massif de charges vers les communes, régions, départements, un démantèlement de la protection sociale, une précarisation extrême du droit du travail, une allégeance au traité de libre-échange américain, etc., etc. À pleurer. Mais le pire est à venir, puisque ces connards nous amènent le Front National sur un plateau. Valls restera comme un politique d'une rare incompétence. Et voilà, revoilà Clopinette. Valls insiste dans sa réponse sur l'action de l'État pour prévenir le terrorisme, État qu'il a entièrement inféodé au service des intérêts privés de quelques-uns. Les armées à Dassault et au complexe militaro-industriel français, qui gavent quelques polytechniciens et familles actionnaires et protègent les Bolloré néocoloniaux. L'éducation aux marchands de produits éducatifs, la santé au secteur privé, qui utilise même gratuitement les locaux des hôpitaux publics. Les finances publiques, alors là c'est le pompon, complètement noyautées par le MEDEF, Total, Areva. L'État renfloue les boîtes de Parisot, de Gataz, distribue sans contrepartie les deniers publics. 40 milliards du CICE aux entreprises, plus 40 autres milliards utilisés venant des livrets A, dirigés par les quatre grandes banques systémiques véreuses aux activités de service toujours pas séparées des activités de spéculation. Merci qui ? Merci Moscovici, etc., etc. Il n'y a pas jusqu'au corps et force physique des citoyens qui n'est vendu au coût le plus bas possible au capital privé, grâce à sa loi travail. Ce rien du tout se fout de la gueule des Français. Il nous parle de la puissance publique alors qu'il orchestre sa soumission et son démantèlement au service de ses intérêts et ceux de la caste à laquelle il rêve d'appartenir, contre l'intérêt général des Français. Il est totalement infoutu de faire valoir cette puissance publique et son autorité supposée quand il s'agit de demander aux médias tenus par ses amis et dont dépend son image et sa réélection de se donner une déontologie dans la présentation des informations concernant les terroristes afin d'éviter les phénomènes de contagion médiatique. Impuissance encore, pleutrerie, veulerie, sa politique étrangère et celle de Hollande, totalement inféodée aux intérêts US, ne nous protège pas des attentats, puisque c'est elle qui fait que nous y sommes exposés. Ainsi, cet imbécile n'est pas seulement menteur et cynique, relativement à nous protéger contre le terrorisme, il est incompétent, impuissant et même nuisible. Et on retrouve Alain Gann. S'attaquer aux racines du mal, certes, mais il faut accepter de changer de mot pour expliquer le problème dû à la scolarité. Ce n'est pas de décrocheurs dont il faut parler, la responsabilité de ce cas étant celle des individus en question, mais de décrocher. Décrocher de quoi ? Mais du système scolaire. La responsabilité en revient à qui, alors ? Sinon à ceux qui le composent, à savoir les enseignants. Comment ceux-là même peuvent-ils se permettre de laisser partir au collège 20% d'une classe d'âge ne maîtrisant pas les fondamentaux que l'instruction est censée donner ? Responsables ceux qui ne donnent pas les mêmes droits d'égalité dès le plus jeune âge aux citoyens en devenir. Ce qui était vrai il y a 50 ans ne l'est plus. Pourquoi ? C'était une époque où le corps enseignant du primaire faisait en sorte que chacun des enfants qui lui étaient confiés sache lire, écrire et compter. Êtes-vous certain que c'est le cas aujourd'hui ? Les statistiques nous montrent le contraire. Quand les politiques s'en rendront-ils compte ? Quand les citoyens s'en rendront-ils compte ? Dos à dos. Car il faut donner encore plus de moyens à l'instruction pour tarir le terreau de la voyoucratie et de toutes les dérives, religieuses ou non. À quoi le moineau répond ? Responsables, les enseignants ? Mais les enseignants sont de petits fonctionnaires, mal payés,
qui obéissent aux directives d'un ministre. Voyez donc du côté du ministre et des pédagogos du ministère. Tapez Brighelli, B-R-I-G-H-E-2-L-I, sur votre moteur de recherche et vous aurez des infos pour améliorer la situation. » Et Notul répond aussi à Gann. Un élément de réponse. Dans les années 70, les collégiens bénéficiaient d'environ 8 heures de français hebdomadaires. En 2016, en 6e, 4h30, au mieux 5 heures. En 5e et 4e, 4 heures. En 3e, 4h30. Et 4 heures de sport. Pardon, EPS. Ce ne sont pas les enseignants qui décident du nombre d'heures de cours, mais les élites qui ont bénéficié des meilleurs lycées, eux. Quand les professeurs ont protesté contre le saccage de l'éducation nationale, qui les a suivis? Sûrement pas les parents.
Gentille petite fille voilée, qui a fait ses voeux sous un ciel étoilé, qui a prêté serment de servir ton Dieu, comme une enfant de chérir ton vieux. On voudrait t'en faire de toi la cata, ignorante, insolente et soumise. N'écoute pas ce que disent les gens, eux qui ne croient qu'au pouvoir de l'argent. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Nous avons fait de la haine un ami, on l'a brandi à tout va en tout nom, car l'autre fait peur comme un bon vieux mormon. Un marabout mais jamais la bonne sœur. J'ai du respect pour les gens quels qu'ils soient, qui lisent la Bible, le Coran, la Torah. L'égalité c'est peut-être aussi ça, une main de Fatma, une étoile, une croix. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? C'est le pouvoir du doute. Quand l'autre préfère mater un match de foot pour se peindre la gueule comme faisaient les païens, mais te juge trop dangereuse pour de bons citoyens. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie?
Et voilà qu'arrive Philippe Baron à Briou. J'ai déjà lu quelques articles de ces deux jeunes auteurs et en ai même approuvé certains qui ouvraient des voies de réflexion au moins utiles et potentiellement animatrices de débats. Celui-ci me semble manquer un peu de souffle. Il ne fait en somme que reprendre une liste de reproches faits à nos gouvernants actuels, élus démocratiquement par nous, citoyens français, les accusant de ne rien avoir fait ou de ne pas avoir fait ce qu'il aurait fallu. Je remarque aussi que tout y passe dans les commentaires, de la théorie du complot, culpabilité postcoloniale, capitalisme débridé, violence consubstantielle à une religion ou à ses déviances, guerre en cours, etc. Multiples causes, plurifactorielles donc, plus ou moins argumentées, réelles ou pas, en tout cas, rarement vérifiable par le commun des mortels, malgré les assertions de certains, dont le résultat tangible, observable, effroyable, serait les attentats actuels et à venir peut-être comme on veut nous en convaincre. Depuis le début, Je remarque que l'immense majorité de ces actes sont commis par de jeunes Français, n'en déplaise à beaucoup, ou francophones, issus de classes sociales souvent fragiles ou fragilisées, d'origine souvent immigrée du bassin méditerranéen pour un bon nombre, souvent en situation scolaire délicate, de niveau plutôt faible, petits délinquants, parfois incarcérés ou en attente de jugement définitif, de religion musulmane pratiquant ou non, radicalisés de fraîche date et se revendiquant de Daesh, parfois quelques minutes avant de passer à l'acte. Suivent les discours des politiques, des journalistes, des experts en tout, religion, géopolitique, criminologue, sociologue, économiste, militaire, juriste, religieux, victime, etc. Le tout en quelques heures seulement est répété en boucle avec photos. Et bien sûr, les témoins ou les voisins des auteurs qui sont décrits du pas de leur porte, normal et gentil, bizarre, taciturne, rien de particulier, sauf les derniers jours ou les derniers mois. On n'entend parler ni du énième renforcement du dispositif de sécurité, d'une nouvelle loi qui permettrait davantage de ceci, qui serait adoptée dès cela. Mais quand entend-on parler du message diffusé, écouté, rabâché sur Internet ou ailleurs, qui a emporté la conviction de l'auteur qu'il fallait passer à l'acte? Quel est ce message mobilisateur qui conduit un jeune, tel qu'il était, fragile sans doute, mais pas forcément relevant de la psychiatrie comme on le dit si souvent, à se mettre dans la peau d'un criminel, assassin de masse? La plupart de ces messages mobilisateurs sont tirés de textes vieux de 15 siècles, présentés comme paroles d'un dieu dans une civilisation archaïque qui cherchait son expansion et vivait des guerres de territoire incessantes où la seule violence permettait l'ancrage temporaire face à des ennemis diffus. Qui prendra le temps d'entendre ces messages, ces fragments, sans aucun lien avec notre siècle et notre civilisation, celle dans laquelle, avec laquelle, ont vécu ces jeunes, et dont ils ont profité, même si ce n'est pas totalement ce qui a pu installer des frustrations réelles? Qui prendra le temps de proposer de les démonter, mot par mot? Déradicaliser, le mot fait fureur en ce moment, et là serait la solution. Permettez-moi d'être dubitatif, même si le travail de recherche-action autour de ces programmes doit être poursuivi et approfondi. Est-il pour cela nécessaire d'aborder dans le cadre scolaire la présentation des religions et leur histoire? L'ignorance est selon moi la racine d'une bonne partie de ces basculements vers cette violence et cette sauvagerie. La racine, radix en latin, ça vous dit rien. Je déplore que les intellectuels les plus compétents n'envisagent pas un échange global sur ces lambeaux, ces oripeaux de toutes les religions qui toutes contiennent des incitations à la violence. Qu'ils élaborent enfin, ensemble, toutes spécialités réunies, des outils pour déconstruire les arguments, et ils sont parfois très simples, qui conduisent à l'élaboration de ces plans mortifères, pas seulement pour l'Occident, mais pour l'ensemble de la planète. Connaître de la façon la plus fine les moyens de l'adversaire, ses ressorts idéologiques, sa tactique, sa force de conviction et ce sur quoi elle se fonde, ses filières de recrutement et ses cibles à manipuler pour passer à l'action. Tout le monde était stupéfait de l'extrême simplicité avec laquelle a été préparé l'attentat de Nice. Un permis de conduire, un chèque de caution, une location à 10 km et 85 morts à ce jour. Faire l'économie de tout ce travail me semble impossible, sauf à accepter les répliques qui ne manqueront pas. Je pense que ce travail de déconstruction de ces textes doit être engagé au plan international et repris dans les cadres scolaires, n'en déplaise à ceux qui refusent d'en prendre le risque. Plus personne ne gueule, même pas peur. Plus personne ne parle du loup solitaire, non plus. Le terrorisme ne se combat pas par la guerre. Interview de Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales, sur la chaîne YouTube Thinkerview. Comment lutter contre la radicalisation ? Deux semaines après les attentats qui ont fait 17 morts en France, la question est au centre du débat. Pour Pierre Conessa, ex-haut fonctionnaire au ministère de la Défense et auteur d'un rapport sur ce sujet, il faut d'abord s'appuyer sur les élites musulmanes. Quelle politique de contre-radicalisation ? C'est le titre du rapport rendu par Pierre Conessa fin décembre 2014 à la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Après le choc provoqué par les attentats meurtriers des 7 et 9 janvier dernier à Paris, c'est la question de l'après qui se pose, et notamment celle de la lutte contre la radicalisation. Objectif numéro 1, désigner la cible. Pour Pierre Conessa, l'objectif premier d'une politique de contre-radicalisation est de désigner la cible, car c'est le seul moyen de faire comprendre que la composante musulmane de la société française n'est pas concernée dans sa totalité par ses comportements. La cible, pour ce spécialiste des questions stratégiques internationales, a un nom, le salafisme. Le salafisme est une idéologie propagée par l'Arabie saoudite dans les années 80-90 pour lutter contre les frères musulmans qui avaient fait l'erreur de soutenir Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. Le salafisme, abondé par l'argent de l'Arabie saoudite, a propagé partout des mosquées avec des imams salafistes, y compris en Algérie, et nos amis algériens l'ont payé. Inutile donc de stigmatiser toute une communauté. Au contraire, selon Pierre Conessa, il faut s'appuyer sur la classe moyenne musulmane, une démarche qui oblige à comprendre d'abord les racines de ces mouvements de réislamisation. Les reborn muslims, enfants de parents trahis par la République. Dans les années 80, la marche de l'égalité, dite marche des beurs, était sur la thématique liberté, égalité, fraternité. La réponse du Parti socialiste à l'époque a été de constituer SOS Racisme avec aucun des leaders de la marche. C'est le genre de choses qui a fait que les enfants de ces gens qui avaient cru à la République se sont ré-islamisés. Oui, alors pour autant que je puisse donner mon avis personnel et motivé sur la question, ce n'est pas la seule chose. Donc, les reborn musulmans, ceux qui vont ensuite donner naissance à ces salafistes sont des enfants dont les parents ont été trahis par la République. Pour Pierre Conessa, il est urgent de trouver un interlocuteur crédible dans la communauté musulmane, car elle est le réseau le plus avancé, puisque c'est elle qui, à travers les imams, les théologiens, les présidents d'associations, les travailleurs sociaux, connaît la communauté. Or, quel est leur interlocuteur aujourd'hui ? Le CFCM, Conseil français du culte musulman ? Une structure qui ne fonctionne pas. Au cœur de la politique de contre-radicalisation, il y a donc la communauté musulmane. On ne va pas définir une politique de contre-radicalisation sans les élites musulmanes. Il y a des volets entiers qui ne relèvent pas du gouvernement. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui va tenir un discours théologique. Donc aujourd'hui, construire cette interface est une première chose. Le terrorisme ne se combat pas par la guerre. Autre aspect important, c'est la perception de l'ensemble de la communauté sur les ratés de la politique extérieure. On a depuis une dizaine d'années utilisé la force armée pour aller sur des tas de théâtres extérieurs pour lesquels aujourd'hui il n'y a aucun résultat positif. Le terrorisme ne se combat pas par la guerre. Il ne se combat pas non plus par l'augmentation des budgets de la police et du renseignement. c'en est un des volets seulement. Alors, cette interview était diffusée sur France Info et la suite sur le site http://www.les-6crise.fr/le-terrorisme se combat pas par la guerre par Pierre Conessa / et entre chaque mot, à partir de les jusqu'à Conessa, entre chaque mot, il y a le tiret du 6. Sauf après FR où il y a un slash. Donc je répète, mais vous le retrouverez sur la page de cette émission. http://www.les-6crise.fr/le-6 et puis après terrorisme ne se combat pas par la guerre par Pierre Conessa. Tiret du 6 entre chaque mot et après Conessa un slash. Ouh là là, un coup de balai citoyen, vite! Bon, maintenant, toutes ces réflexions n'entraînent ni la responsabilité de Mediapart, ni celle de Canal Sud, ni même celle de Tati Daniel. Simplement, de la discussion jaillit la lumière, paraît-il. Alors c'est tout, c'est le seul but du jeu. Si vous voyez une petite loupiote là-bas, tout au fond du tunnel, ben vous gênez pas pour nous la porter. Hein. Vous serez très bien reçu. Il y a une page à chaque émission pour ça. Voilà, merci beaucoup et à très vite.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes et républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.